Patrick, tu disais, je pense que tu as raison, là. On pouvait lire sur les lèvres des députés du Parti québécois hier le mot trahison.
Tu n'osais pas le dire.
Ah, mais oui. Mais... on va le dire. Ça, hein, quand tu te fais traiter de Gertrude Bourdon, puis de ci, puis de ça, c'était pas gentil.
C'est l'équivalent de, dans ce mouvement-là, hein, qui être souverainiste, c'est difficile. Non, mais c'est vrai, je le dis, là. Pensez ce que vous voulez des souverainistes, du Parti québécois, de l'idée d'un pays. Être souverainiste, c'est difficile. C'est une longue traversée du désert depuis 50 ans, avec très peu de moments ensoleillés. C'est-à-dire, l'élection du PQ en 76, parfait. Mais après ça, l'exercice du pouvoir, ça a été difficile. Le référendum de 80, ça a été une taloche. Le référendum de 95, bah, c'est tout proche. Mais ils ont perdu. C'est dur d'être souverainiste. Et là, tu vois un membre de ta famille qui s'en va, pas juste dans un autre parti, qui s'en va dans la bête noire traditionnelle des souverainistes. Parce qu'on a beau dire que le Parti libéral du Québec, c'est un adversaire du PQ, c'est vrai. Mais la bête noire, le parti de Trudeau, le parti de Chrétien, le parti de la loi sur le renvoi, le parti de la loi sur la clarté, mais Christy, c'est le Parti libéral du Canada. Et là, il s'en va, Régent Hébert s'en va peut-être au Parti libéral du Canada. Mon Dieu, écoute, c'est Kim Philby qui trahit les Britanniques pour aller vivre en URSS. Tu comprends, là?
C'est toi qui utilises le mot trahison, là.
Mais
c'est,
oui, hein? Moi,
je ne suis pas membre de la famille. Je suis pas.
Bon, ben, écoutons, un membre de la famille souverainiste.
Membre de la famille. Ben, moi, je trouve que c'est des commentaires qui sont bien exagérés parce que c'est pas le premier ni le dernier à changer de parti puis à changer jusqu'à un certain point de conviction. Alors, moi, et il le fait pour des motifs qu'il invoque. Qui sont des motifs très nobles. C'est-à-dire, honnêtement, cet homme-là est un médecin qui s'est toujours dévoué, qui a créé plein d'instituts, puis de tout ça. Tu sais, il a été très actif en santé, puis son but, c'est d'abord et avant tout un projet noble. Tu peux juste être d'accord avec l'idée d'avoir une assurance collective, des soins individuels, des soins à domicile. Donc, les motifs sont nobles. Là où je pense qu'il se trompe, et je trouve pas que ça mérite tous les anathèmes, c'est son analyse politique, elle est complètement amateur, à mon sens, parce que il est clair que si tu veux accomplir quelque chose dans la société et que tu as besoin du pouvoir politique, il y a une logique à te présenter comme député puis à devenir ministre. Ce qu'il a fait, il a été ministre quand même de la Santé dans le gouvernement Marois. Il y avait une belle logique là-dedans. Tu cherches le pouvoir politique pour mettre en œuvre des politiques auxquelles tu crois. Mais là où il fait une mauvaise analyse, c'est qu'en changeant et de parti, en passant du PQ au Parti libéral, c'est qu'il s'imagine qu'il va pouvoir faire la même chose avec ce pouvoir-là et utiliser le pouvoir fédéral pour mettre en œuvre ses pratiques. Et là, à mon sens, il se trompe complètement. Il se trompe complètement parce que, inévitablement, dans le champ de la santé en particulier, il va être confronté à ce qui s'appelle la compétence des provinces, surtout au Québec, dans le domaine de la santé. Mmh. Et si tu veux instaurer des politiques du fédéral qui vont s'appliquer à l'ensemble des provinces, ce qui serait son cas, là, inévitablement, tu vas rentrer dans des conflits constitutionnels. Et là, de quelqu'un qui a quitté un parti, il va devenir quelqu'un qui combat ceux avec qui il a travaillé.
Écoute, il n'y a pas de traîtrise. Objectivement, moi, je pense pas qu'il y en a. Mais il devrait s'expliquer, cependant, M. Hébert. Et là, il le fait, mais je trouve que c'est un peu simpliste comme explication. Il dit « Ah, moi, je suis un gars de projet. » Puis là, évidemment, Justin Trudeau t'approche. Tu pourrais peut-être devenir ministre de la Santé fédérale. Tu te dis « Il y a bien des projets que je pourrais mener à terme. » C'est vrai. Mais quand même, tu passes de ministre souverainiste, il y a quelques années, là, pas 20 ans, quelques années à fédéraliste, parce que, excuse-moi, là, si tu t'en vas avec Justin Trudeau, tu es soudainement fédéraliste, ce qui est bien correct. Il y a plusieurs Québécois qui font ce chemin-là, c'est correct. Mais tu devrais nous expliquer pourquoi. Parce que s'il y avait un référendum, je sais qu'il n'y en aura pas, mais s'il y en avait un, tu serais soudainement du côté, si tu es élu libéral, fédéral, tu serais du côté du non, là.
Oui, alors qu'il
y a 5, 6, 7, 8 ans, tu aurais milité pour le oui. Pour moi, il y a quelque chose à expliquer ici. Après ça, l'autre contradiction, c'est ça. Tu as été ministre au provincial, dans un gouvernement qui revendique une plus grande autonomie pour le Québec, le respect des compétences, etc. Ottawa, là, si Régent Hébert devenait ministre de la Santé et pouvait instaurer son fameux régime d'assurance vieillesse, Écoute, c'est un empiètement sur les prérogatives des provinces, ça, là. Je veux dire, c'est ce qu'Ottawa aime beaucoup faire. Arriver, mettre de l'argent dans des programmes, dans des juridictions qui sont provinciales, retirer tout le bénéfice, mais avoir rien à gérer ou presque.
Oui.
Il y a beaucoup de contradictions ici. Là.
Le pouvoir de dépenser du fédéral. Mais donc, d'où vient cette analyse-là? Moi, je pense que tout simplement, il évalue mal. Il part d'un axiome qui est faux. L'axiome, c'est... tu penses que tes projets, à cause de leur noblesse puis de leur justesse, puis ils parlent aussi du climat, ce matin dans une lettre, tout ça, tu penses que tu vas pouvoir utiliser le pouvoir politique pour arriver à tes fins. Or, dans la réalité, c'est le contraire. Tu ne réussis pas à instrumentaliser le pouvoir politique. C'est toujours le pouvoir politique qui instrumentalise les ministres et dans leur volonté. Il se base sur un modèle étrangement québécois, parce qu'il y a eu des exceptions à ce que je dis. Camille Lorrain est l'exemple le plus probant. Voilà un homme qui est allé en politique et tout d'un coup, il a décidé qu'il devenait porteur d'une cause qui a été celle de la langue française, de la loi 101. Ça a changé profondément le Québec. Madame Payette a un peu fait la même chose. Madame Marois avec les CPE. Donc, le modèle québécois du ministre, à l'intérieur de sa conviction, a souvent été un modèle porteur de réformes réelles. Ça a été les années 60, ça a été la période que tu qualifies de difficile, mais qui a été assez glorieuse, et du Parti libéral du Québec, et du Parti québécois. Mmh. Mais là, je crois que la donne n'est plus la même. C'est très difficile maintenant pour une femme ou un homme en politique d'instrumentaliser, d'utiliser le pouvoir politique pour arriver à accomplir quelque chose de noble et de beau. Je pense que ça n'existe plus, ce modèle-là.
Et l'autre mauvaise lecture que fait M. Hébert, je pense, c'est que le ministre de la Santé au fédéral ou la ministre de la Santé au fédéral n'a pas un très, très grand pouvoir. Je veux dire, nommez-moi là, les ministres de la Santé fédéraux dans les dernières années qui ont eu un impact durable. J'en vois pas beaucoup. Le fameux programme d'assurance médicaments, là, c'est un peu comme le TGV Québec-Windsor au fédéral. On en parle depuis des décennies et ça arrive jamais.
Non, la seule affaire, par exemple, dans le cas de Mme Philpott, ça a été, c'est elle qui était là, je pense, oui. Pas certain, mais en tout cas, c'est la disparition des frais accessoires dans le réseau de la santé,
oui,
au Québec.
Exact,
il y avait le recours, là, mais disons que les autres avaient laissé passer pendant des années. Et elle a mis le pied à terre. Là.
Elle a mis le pied à terre. Elle a menacé Québec d'appliquer la loi. Québec s'est plié. Mais écoute, du virage ambulatoire à la réforme Barrette, là, on peut identifier des ministres au Québec, des ministres de la Santé, qui ont eu un impact durable sur le réseau.
Oh oui. Okay?
On peut ne pas aimer ça, mais quand tu es ministre de la Santé au Québec, mon Dieu, tu as un impact à Ottawa. Comme je dis souvent, Ottawa, c'est loin, puis c'est pas juste parce que... Je parle pas juste de kilomètres. T'es loin du plancher des vaches.
Mais moi, je pense que Régent Hébert, c'est plus simple que ça.
C'est quoi?
Ben, lui, là, c'est vrai qu'il y a un projet, là, puis les soins à domicile.
Oui, c'est les soins à domicile.
Bon. Là, il regarde la réalité. La réalité, là, puis il l'a dit à mot poli couvert, là, la souveraineté n'intéresse pas personne. En tout cas, peu de gens.
Oui,
il y aura pas de débat national, il y aura pas de référendum. C'est ma dernière fenêtre pour aller réaliser cet objectif, comme tu dis, qui est noble. Le reste, on verra.
Oui, bien, c'est ça. Moi, je pense que...
Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu es un ministre fédéral qui va intervenir dans des débats au Québec. Là, ton boss s'attend à ce que tu livres la marchandise. Là.
Oui, mais il devrait se poser sur un certain nombre. Quel est le meilleur parti qui pourrait représenter ses valeurs et ses ambitions, donc dans lequel il pourrait être le plus actif. Non,
quel est le parti qui va prendre le pouvoir?
Oui, mais c'est à mon sens, c'est là l'erreur
d'analyse. En tout cas, il est sans doute plus près des libéraux que des conservateurs.
Oui, mais il pourrait être plus près du NPD, mais c'est sûr que leur chance de prendre le pouvoir, ou il pourrait être plus près d'un autre parti provincial qui est moins souverainiste, disons, par exemple, Québec solidaire ou je sais pas quoi.
Mais c'est là que tu vois un peu l'absurdité de l'organisation politique dans ce pays-là. Régent Hébert porte ça, là, le dossier des soins à domicile, c'est son ambition. C'est dans la province que ça devrait se régler, ça. C'est une prérogative, oui, provinciale. Les provinces sont dans la santé, les services sociaux. Tu peux pas implanter un programme de soins à domicile qui serait pas incrusté dans le réseau actuel de soins de santé. Ça n'a pas de bon sens.
Mais est-ce un vrai souverainiste?
Ah, les tests de pureté.
Moi, les tests de pureté, là.
Non, mais tu sais que c'est...
Franchement, oui.
Mais, non, disons qu'il y a certains échos de ce genre dans ma boîte de courriel.
Ouais.
Ah oui, hein?
Oui, oui, oui.
C'est un crypto-souverainiste.
Voilà.
Ça s'est vu dans le passé.
L'autre question qui aurait pu être intéressante, c'est est-ce que maintenant, avec le pouvoir politique qu'on connaît, la société civile est capable de porter des projets comme ceux-là? Je pense au pacte de transition, qui est un effort de la société civile pour influencer le politique. Peut-être qu'il faut...
Imagine-toi à l'époque quand Richard Holden avait quitté le Parti Égalité pour devenir député du Parti québécois de Westmount. Tu sais, il faut le faire, là.
Oui, ça, c'était...
Imagine-toi les gens de Westmount. Il y avait un député péquiste.
Il a perdu après, hein, je pense.
Je pense que oui.
Ça n'a pas été long.
Bon, on arrive à 8h56. Toujours le tunnel.